Bonjour à tous. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, comment obtenir réparation quand une compagnie pétrolière, par ses activités, provoque un désastre écologique et humanitaire? Il est l'homme qui a intenté un recours collectif contre Texaco au nom des paysans indigènes d'Amazonie équatorienne. L'avocat Pablo Fajardo sera notre invité à partir de 12h55 pour nous raconter sa lutte, son combat. Mais d'abord, Etché, l'artiste pionnier du street art. Il présente ses images peintes, dessinées, sérigraphiées sur les murs du monde entier. Aujourd'hui, le plasticien Ernest Pignon Ernest est notre invité à l'occasion de son exposition Ecce Homo qui se tiendra tout l'été jusqu'au 29 février à la Grande Chapelle du Palais des Papes à Avignon. Près de 400 œuvres de 66 à nos jours. C'est pas une rétrospective, il n'est pas mort et bien vivant, mais une radiographie, comme il l'appelle, de son œuvre. Normal qu'il vienne nous en parler ici en primeur à la radio sur France Culture.
La Grande Table. Olivia Jesbert.
Radiographie, radioscopie, plus de 50 ans de démarche créative que vous allez exposer à Avignon. Ernest Pignon, Ernest, vous êtes l'homme qui insère des images fiction dans le réel des murs et de nos vies. Bonjour à vous.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Pourquoi ce titre, Ecce Homo, voici l'homme, mais quel homme?
Je n'ai fait que ça pendant 50 ans, interpeller l'homme et, ou parler de ce qu'on lui inflige, quoi, vraiment. Ça s'est imposé, c'est devenu comme une espèce d'évidence. Sinon, comme mon idée, c'était de, pour l'affiche, de mettre une femme avec ce titre-là. Mais je n'ai pas trouvé la solution graphique. Je suis désolé.
Mais vous n'êtes pas un artiste Ponce Pilate, vous.
Non.
Vous ne jugez pas les hommes autour de vous.
Non, sûrement pas. J'ai trop de doutes.
Vous doutez de quoi aujourd'hui, après plus de 50 ans de création?
Oh. Quelque temps, je continue à douter, je crois un peu de tout, en tout cas, je n'ai jamais pensé que ce genre d'intervention était susceptible d'avoir une espèce d'efficacité ou de choses de cet ordre, quoi, voyez, je ne sais pas pourquoi je l'ai fait.
Vos interventions?
Oui.
Ouais. Mais est-ce qu'il faut que pour qu'une intervention soit nécessaire ou qu'elle soit utile?
Non, en tout cas, elles me sont nécessaires, c'est-à-dire qu'elles nécessitent tellement d'énergie, vous voyez, d'approche des lieux, de l'histoire, de tellement de travail pour élaborer les images que je me mets en train pour ce genre d'intervention que lorsqu'il y a quelque chose qui est une espèce de, qui devient une exigence, vous voyez, vraiment une exigence pour moi.
Ce qui est intéressant, c'est que ce doute, il ne vous paralyse pas. Il vous fait avancer. 50 ans, là, vous présentez 400 images. Ce sera à partir de la fin juin à Avignon jusqu'à la fin de l'hiver prochain. 400 images sur combien? Vous avez réalisé combien d'images depuis vos débuts?
Je ne sais pas. Non, on ne compte pas. Ouais, des milliers, probablement. Mais j'ai fait un choix à Avignon. Je fais un choix de thème. Je fais un choix de thème. En travaillant sur l'espace, sur le lieu, sur ce qu'est la grande chapelle du Palais des Papes. Pour moi, c'est une espèce d'émotion parce que j'ai vécu, j'ai travaillé à Avignon. J'ai même vu les deux grandes expositions de Picasso dans cette chapelle. Vous voyez, c'est un peu intimidant. Voilà. Et donc, j'ai fait un choix d'œuvres, effectivement, depuis 1966 jusqu'à des images que j'ai collées il y a quelques semaines à Port-au-Prince encore. Voilà. Il y aura des photos de mes collages à Haïti.
Pourquoi? Quelle était cette démarche à Haïti? Ce projet-là, on le connaît peu encore.
C'est en cours, en fait. C'est en cours. Ce projet était déclenché par la lecture de Lionel Trouillot. Voilà. Enfin, très souvent, mes travaux naissent d'un dialogue, d'une découverte, d'une œuvre poétique ou littéraire, comme ça. Là, Lionel Trouillot m'a fait découvrir Haïti. C'est-à-dire que cette propension qu'a cette ville à sécréter des poètes, c'est absolument extraordinaire. Même à sécréter des œuvres, je pense à celle de Laurent Godet, vous voyez. Je veux dire que c'est un lieu très, très fertile, quoi, vraiment.
Tous les poètes vous accompagnent quand même aussi depuis les débuts de votre parcours d'artiste. C'est un long compagnonnage avec beaucoup d'entre eux, que ce soit Rimbaud, que ce soit Mahmoud Darwish, que ce soit Nerval, Éluard et beaucoup d'autres, Néchard aussi.
Oui, en fait, je suis arrivé dans le Vaucluse en partie à mes premières interventions mes premières interventions hors cadre, si vous voulez, hein, quand la première fois où j'ai je vais le prendre à l'envers, vous voyez. La première fois où dans ma vie je me suis rendu compte que j'avais les moyens de me consacrer à la peinture pendant longtemps, que j'avais fait les plans de la villa d'un dentiste et ça m'avait rapporté des honoraires de quoi peindre. Alors jusque là je travaille un peu à mi-temps, quoi, vous voyez. Je suis parti m'installer dans le Vaucluse, un Vaucluse un peu mythique, quoi. Pour moi, c'était un peu comme la Toscane, presque. Vous voyez, le Mont Ventoux, Pétrarque, René Char. Donc, je suis parti là-bas avec l'intention de faire de la peinture. Et j'ai loué un ancien café dans un petit village. Et j'ai découvert à ce moment-là qu'à quelques kilomètres s'implantait la force de frappe atomique. Voilà. Et je me suis dit, ben voilà un thème auquel je pourrais me confronter. Et j'ai dû y renoncer. C'est-à-dire que j'ai eu le sentiment, là, c'est là qu'au fond, c'est dessiné ma façon de travailler. C'est déterminé cette façon de travailler hors peinture. Il m'est apparu que cette puissance de mort qui était enquistée, là, quasiment sous les amandiers du Vaucluse, dans un premier temps, ça me semblait un thème très intéressant. Vous savez, le nucléaire. Le nucléaire est une espèce de tournant dans l'histoire de l'humanité. Et j'essayais de m'affronter avec ce thème-là. Et avec cette idée de la violence que ça représentait, cette puissance de mort, des milliers de fois Hiroshima enquistée sous les lavandes. Et s'est imposé cette idée que la peinture pouvait pas résoudre ce problème. Que la peinture par elle-même, si vous voulez, l'idée du tableau, la perspective d'une exposition dans une galerie ne correspondait pas à ce thème. Et peu à peu s'est imposée l'idée que c'était les lieux eux-mêmes qui portaient cette force dramatique, poétique, et que c'était sur les lieux qu'il fallait intervenir, voyez, en quelque sorte stigmatiser les lieux eux-mêmes. Et c'est comme ça que, pour la première fois, j'ai déterminé une image d'homme. Je suis parti de la fameuse photo qui est très très connue d'Hiroshima. Vous avez l'éclair nucléaire a brûlé un mur et a photogravé la silhouette d'un homme qui a été décomposé complètement. Et à partir de cette silhouette noire comme un fantôme, j'ai fait la première fois des pochoirs que j'ai imprimés sur les routes qui allaient vers le plateau d'Albion.
Voici 10 ans, la ville d'Hiroshima était rasée par l'explosion de la première bombe atomique qui fit, selon la Croix-Rouge japonaise, 240 000 morts et 150 000 blessés, dont un grand nombre devait succomber par la suite. Ce jour-là, le monde apprit que l'enfer pouvait être déchaîné par les hommes. Aujourd'hui, la vie s'est réinstallée dans Hiroshima reconstruite. Mais les traces de l'effroyable explosion restent marquées dans la chair des 4000 personnes qui sont encore en observation. Et le nom d'Hiroshima demeure un avertissement à la conscience des hommes.
Des traces de l'explosion gravées dans les corps, c'est aussi ça qui est à l'origine de votre démarche, de la prise de conscience, et avec cette série aussi Les Irradiés que vous avez réalisée dans la région d'Avignon, sur le plateau d'Albion, on était en 66. C'est la série originelle, le point de départ pour vous ?
Oui, oui, oui. C'est la première fois que je suis sorti de cette idée du tableau avec cette perspective d'intervenir sur les lieux. Parce que si on peut parler d'œuvre pour ce genre d'intervention, l'œuvre, évidemment, ce ne sont pas mes dessins, ce sont les lieux eux-mêmes que je saisis, si vous voulez, hein, et révélés par la présence de mes images. En fait, je travaille toujours comme ça, j'entreprends une appréhension des lieux de peintre, de sculpteur, j'essaie d'en saisir, bien entendu, la texture des murs, leurs couleurs, l'espace, la façon dont la lumière vient dessus, enfin de saisir tout ce qui se voit.
Ça, c'est intéressant, Ernest Pignon-Hernest, c'est-à-dire que vous estimez que vos dessins n'existent pas par eux-mêmes. Vous pensez qu'ils ne sont rien indépendamment de la surface, de l'espace dans ou sur lesquels vous allez les inscrire physiquement ?
Oui, parce qu'ils sont conçus complètement pour ça. Ils naissent du lieu, de cette appréhension de peintre, là, de tout ce qui se voit. Mais dans ce travail d'approche des lieux, une fois que j'ai saisi tout ce qui se voit, je travaille beaucoup tout ce qui se voit pas. Et la mémoire des lieux, leur potentiel symbolique. Et j'élabore mes images en fonction de ça. Mes images naissent de cette appréhension des lieux. Et elles ne sont élaborées que dans cette perspective. Vous voyez? Je veux dire que l'espace même dans lequel j'inscris ces corps est a pris en compte l'espace du lieu dans lequel je vais travailler. Vous voyez? C'est-à-dire que, elles répondent à, par exemple, je suis amené à travailler l'image pour qu'il y ait assez d'effets de réel, pour qu'elles apparaissent un peu comme une présence, qu'on les rencontre de façon un peu sensuelle, si vous voulez. Mais en même temps, je sais pas de faire de trompe-l'œil, j'essaie d'affirmer que ce sont des images, ce sont des signes, vous voyez. Alors il y a dans mon travail des choses qui visent à cet effet réel. Bien sûr, le fait que c'est grandeur nature, mais en même temps, le noir et blanc affirme le concept du dessin. Au théâtre, on dirait la distance, quoi.
À Avignon, dans cette exposition Ecce Homo, vous allez présenter des croquis, des dessins préparatoires aussi. Du coup, qu'est-ce qu'ils nous disent du statut de l'œuvre du dessin ?
Ben, vous savez, le dessin montre plus que ce qui est figuré. Il montre le projet, je veux dire le dessin avec un E. Il montre il montre là dans les croquis que je vais montrer. Je vais proposer des notes, des esquisses qui montrent des choses ratées même, ou des thèmes pour lesquels j'ai pas trouvé la solution graphique. Pour les inscrire dans la rue. Au fond, je vais montrer un peu le processus de travail. Dans l'exposition, au fond, elle sera perçue comme ça. L'exposé d'une démarche sur 50 ans, les tâtonnements, les hésitations, les...
Processus toujours inachevé pour vous, Ernest Pignon-Ernest ?
Ouais. Enfin, en tout cas, moi, j'ai un peu ce sentiment. Même quand j'ai terminé un dessin que j'ai travaillé très longtemps, je sais que j'ai encore... une façon de travailler le sens qu'il porte, sa symbolique, par le collage. Vous voyez, il y a plusieurs étapes dans mon processus de création.
Et l'étape finale est en quoi ? Le regard du passant ?
Non, sa destruction, peut-être, sa disparition avec le temps. Parce que je les laisse, bien sûr, je veux dire. Mais la fragilité fait... Même la mort annoncée de mes images en fait partie. Vous voyez, je veux dire, cette fragilité, elle est un des éléments subjectifs qui compte autant que le dessin lui-même. Je dis souvent que je m'en suis rendu compte il y a très longtemps. J'avais collé une image d'Arthur Rimbaud de Charleville jusqu'à Paris sur les routes, puis après dans Paris pendant quelques temps. Et j'ai compris que des gens me disaient, ça t'en dit pas qu'ils disparaissent. Mais non, c'est ce qu'il y a de plus rimbaldien dans cette histoire. C'est qu'on va pas faire un Rimbaud en marbre et faire un Rimbaud qui disparaît. C'est René Char qui dit, tu es passé fulgurant. Voilà. Et donc, cette fragilité, elle fait partie de ma palette, quoi. Mais ma palette, c'est beaucoup de choses que nous avons en commun. Vous savez, quand on intervient dans la ville, On partage de l'espace, bien sûr, de l'espace vécu. On partage de l'histoire, on partage de la mémoire, on partage du symbolique. Et tous ces éléments font partie de mon travail. Voilà. C'est pour ça que la plupart des gens, même quand je fais, notamment à Naples, des travaux un peu complexes qui interrogent les mythologies grecques, romaines, chrétiennes ou Virgile, il y a des choses qui sont accessibles parce que c'est des choses que nous partageons dans la ville.
Mais la fragilité fait partie de nos vies. C'est même l'essence des vies humaines. À travers les objets ou des photos de famille qu'il accumule, empile, découpe, projette. C'est aussi ce que montre, à sa manière, très différente de la vôtre, l'artiste plasticien Christian Boltanski.
Mais en fait, je ne m'intéresse pas tellement à la mémoire, mais plutôt à la disparition. Et effectivement, qui parle de mémoire parle de quelque chose qui s'en va. cette minute qu'on essaie de garder, mais qu'on ne peut pas garder. Et disons, pour moi, c'est plutôt une des questions que je me pose, qui est cette contradiction entre l'importance que je donne à chaque être, parce qu'il est unique, et en même temps le fait que nous disparaissons si rapidement. Calaguer, on se souvient de son grand-père, mais jamais de son arrière-grand-père. Donc en même temps, chacun est tellement important, et en même temps, comment garder quelque chose, ce qui, donc j'ai toujours comme ça pour que mon travail est un ratage total, parce que j'ai jamais, forcément on ne peut pas lutter contre l'oubli, on ne peut pas lutter contre la disparition. Et donc on peut garder des milliers d'heures d'enregistrement, on peut garder des centaines de photos, mais ça n'empêche pas que finalement, il ne restera rien, il ne reste rien.
Il ne restera rien, il ne reste rien, nous dit Christian Boultanski. Des œuvres éphémères pour des vies éphémères, Ernest Pignon-Ernest.
Ça veut dire quoi ? Je me sens très proche de ça.
Mais ça veut dire que l'art ne peut pas lutter contre l'oubli, contre cette disparition. L'art ne peut pas prolonger la vie, changer le cours du temps.
Je ne sais pas si je suis complètement d'accord avec lui. Il m'a beaucoup ému. Moi, je me sens très proche de sa démarche. Je me souviens, la première fois où j'ai compris ça, c'est quand il avait accumulé des fringues dans le sous-sol du musée d'art moderne. Et il y avait une émotion très très forte. Parce que quand il nous propose ça, l'œuvre plastique, bon, c'est l'accumulation de vêtements. Mais on est obligé de penser à ceux qui les ont portés.
Habiter.
Et en plus, quand il s'agit de vêtements, on est obligé de penser à la Shoah, bien entendu. Et donc, vous savez, moi, ce que je propose, c'est un lieu avec son histoire. La présence de mes images dans une rue viennent en quelque sorte révéler la rue. Mes images naissent, je le disais tout à l'heure, de l'appréhension de l'histoire que portent les lieux. Et au fond, en quelque sorte, mon œuvre, c'est la rue elle-même avec son histoire que je propose, comme ces fringues avec leur mémoire. Je travaille sur quelque chose de cet ordre-là. Je me sens très proche de lui.
En dessinant, il s'agit moins de représenter que de rendre présent, dit de vous votre ami, le poète André Velter, en référence à votre série Les Gisants, notamment Régis Debray, le philosophe, vous définit comme un artiste de l'exhumation dans ce livre Face au mur, Ernest Pignon-Ernest, qui réunit beaucoup de témoignages autour de vous, sorte de monographie. Vous faites œuvre de réminiscence? On pourrait le dire comme ça?
Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, ce livre, c'est pour moi une grande émotion parce qu'il y a vraiment tous les gens que j'admire qui se sont penchés sur mon travail.
Sur votre cas.
Quand je l'ai vu arriver, j'étais vraiment bouleversé. C'est vraiment. Oui, je me sens très proche de ça. J'ai mis en exergue cette phrase de Romain Gary, l'homme sans les mythologies de l'homme, c'est de la barbaque. Voilà, je travaille sur ça, sur l'histoire.
Mais artiste de l'exhumation, ça veut dire beaucoup sur ce rapport aussi que vos œuvres entretiennent entre la vie et la mort. En fait, les deux sont en permanence liés aussi dans vos manières de faire ressurgir, réapparaître dans le temps présent des souvenirs, des fantômes presque de ces lieux que vous allez raconter.
C'est vrai, je travaille que là-dessus. Au fond, mon travail vise à, presque toujours à réinscrire l'histoire humaine dans les lieux, si vous voulez. J'essaie de faire en sorte que l'émotion que l'on ressent soit inséparable de l'histoire des lieux. Vous voyez, je suis très inquiet de cette amnésie généralisée de la société aujourd'hui. Voilà, j'essaie toujours de faire en sorte que, même en abordant des thèmes très contemporains, très aigus, faire résonner l'histoire, faire résonner l'histoire et l'histoire de l'art, en quelque sorte. Voilà.
Vous avez la mémoire longue, Ernest Pignon-Ernest?
Bon, écoutez, j'espère, je ne sais pas si j'ai mes barlots. En tout cas, j'y suis attentif, quoi. Je suis inquiet de la perte de mémoire. Je veux dire que un des derniers collages que j'ai fait, c'est à propos de 40 ans de l'assassinat de Pasolini. Il y a d'ailleurs dans ce livre un texte de René Tsekati magnifique là-dessus. Et j'ai fait ça parce que quand j'ai découvert qu'il y avait 40 ans 40 ans que Pasolini a été assassiné, je disais, il nous avait tellement prévenu de cette espèce de déshumanisation que s'annonçait déjà à ce moment-là. Et ça me pose pour moi l'idée, en effet, de se tourner vers le passé. Oui, oui, mais, oui. Lui, Pasolini parle souvent de ça. Il dit l'extraordinaire force révolutionnaire du passé.
Mmh. Pasolini, que vous faites revivre à Rome, sur les lieux de tournage emblématiques aussi pour lui, et à Naples, dans ce quartier, ou probablement ces quartiers où il se rendrait aujourd'hui. Mmh. Vous dites que vous allez vers des lieux qui vous touchent, qui vous parlent, mais est-ce qu'à contrario, il y a des lieux qui vous laissent froid, indifférent, qui ne vous provoquent aucune émotion ?
Écoutez, je sais pas. Non, vraiment, je sais pas.
Est-ce que tous les lieux ont quelque chose à nous raconter ?
Mais c'est pour ça, je pense que si on se penche dessus, si on lit, si on interroge les gens qui le vivent, qui le font vivre, on peut probablement appréhender tous les lieux. Et tous les lieux sont chargés d'histoire, quoi, très sûrement, sûrement. Mais voilà. Je sais pas comment mes choix se sont faits. Vous voyez, aller coller à Soweto ou à Ramallah, c'est... Ben, la Ramallah, ça vient vraiment des poètes. C'est-à-dire, moi, je me saisis des images des poètes parce qu'ils, c'est le cas de Pasolini. Pasolini incarne toutes les contradictions de l'Italie au XXe siècle, du fascisme au communisme. Mayakovsky, il a incarné même la beauté de la révolution soviétique, et son suicide annonce au fond le stalinisme et l'échec. Vous voyez, je veux dire, tous portent des choses de cet ordre. Je travaillais beaucoup sur Robert Desnos. Je rêve depuis des années de me coltiner avec Aurélia de Nerval, là, vraiment.
Et quand vous dites incarner, ça fait tout de suite place au corps. Mais quelle place ont pour vous les mots ?
Ben, ils déclenchent. Presque. Je vous disais tout à l'heure, je suis parti à Haïti parce que j'ai lu Lionel Trouillot, et à travers lui, Jacques-Stéphane Alexis qui dit la belle amour humaine. Quoi, vous voyez, je veux dire que les mots sont les déclencheurs pour moi. Presque tous mes travaux depuis quelques années sont nés d'un dialogue avec des poètes. Je viens le mois dernier sortir le 19e livre que je fais avec André Velter.
Alors, on l'écoute justement sur ce dialogue qui s'est noué entre vous et cette amitié.
Moi aussi, je connaissais bien sûr les images d'Ernest, et aussi, plus que les images, l'action d'Ernest.
Bien sûr, bien sûr.
C'est-à-dire le fait qu'il était le seul à ce moment-là à faire cet investissement des rues, et avec aussi une très forte présence poétique. Il a très vite eu un rapport avec les poètes, et évidemment, ça m'interpellait. Et puis, vous avez évoqué d'autres mots... politique, civilisationnel, engagement, enfin, etc. On partage en effet ça de façon extrêmement simple. L'amitié, c'est ça qui est magnifique, c'est qu'on n'a pas besoin trop de se demander comment ça vient et comment ça évolue. C'est ainsi. C'est une phrase de Hegel quand il avait vu la montagne pour la première fois. Tout le monde s'attendait à des déclarations extraordinaires. Mmh. Il avait dit en tout et pour tout devant un pic magnifique. C'est ainsi. L'amitié, c'est ainsi.
Et André Velter, de définir la poésie ainsi au début de votre livre commun Extase, paru chez Actes Sud. Quand elle refuse d'être un ornement ou une collection d'affaîtrie formelle, elle garde trace des expériences vécues et des risques pris. Elle dit le réel, mais en le révélant plus vaste et d'une prodigieuse intensité. On revient à la notion de trace et d'empreinte, hein, aussi, qui vous est chère, Ernest Pignot-Ernest.
Complètement. C'est René Char qui dit les poètes doivent laisser des traces, voilà. Vous citez ce livre, ça me permet de revenir à ce Ravignon, parce que cette exposition Extase, je l'ai créée, je l'ai montrée pour la première fois à l'église Saint-Charles, à côté du Palais des Papes, donc très proche du Palais des Papes, et c'est une espèce de retour, là, l'exposition au Palais des Papes est pour moi une espèce de retour sur Ravignon qui compte beaucoup. L'exposition Extase est en train de rentrer là aujourd'hui de Naples. Voilà, elle était dans une crypte de Naples ces derniers jours. Ouais.
Ce que vous nous avez pas dit encore, Ernest Pignon-Hertin, c'est comment représenter et rendre présent l'intemporel, l'infigurable, ce qui relève plutôt du mystique ou de la spiritualité. On pense notamment du coup à cette série, hein, Extase, à cette grande affiche que vous aviez réalisée avec les grandes figures féminines de l'histoire, de Marie-Madeleine à Catherine de Sienne, Teresa d'Avila, Marie de l'Incarnation, et j'en oublie quelques-unes. Comment avez-vous procédé?
Bon, ben, j'ai ramé longtemps, quoi. Je veux dire, non, c'était le challenge, c'était comment faire image, ben, ce que dit très bien André Welter dans le livre, comment faire image de corps qui aspire à se désincarner. Je veux dire, elles sont à la fois les épouses du Christ, elles disent des choses incroyables, elles s'envoient en l'air, comme vous savez, dans le livre, là, face au mur, Julia Kristeva, qui a fait un texte où elle dit, à propos de Thérèse, cette femme est en ruissellement constant. Et donc ces femmes, en même temps, elles partent en lévitation, elles sont anorexiques. Donc, si vous me posez la question, ça a été très compliqué. J'ai à la fois travaillé la présence du corps par le dessin et dit le refus du corps en travaillant les feuilles elles-mêmes, en travaillant le support des dessins, comme en contradiction. Et puis, à partir de cette idée de ruissellement constant, j'ai implanté tous ces dessins dans de l'eau. Elles ont toutes des métaphores liées à l'eau, Madame Guyon surtout, et qui permet dans le lieu d'entraîner une espèce de renversement visuel, voyez.
Ernest Pignon-Hertin. Il nous reste une question. Métamorphoser l'espace public en espace plastique, voilà ce que vous faites donc depuis plus de 40 ans et que vous présentez actuellement, ou à partir de la fin juin, à Avignon, dans cette exposition Ecce Homo. Vous nous avez raconté votre rapport au lieu, mais est-ce que vous leur restez étranger, extérieur, ou est-ce que vous vous fondez aussi en eux? Donc pour terminer, s'il y avait un mur sur lequel on pourrait fondre votre image, lequel serait-ce? Quel est le lieu qui parle de vous aujourd'hui le plus, ou qui vous parle le plus?
Ce serait sûrement un mur de Naples, parce que à Naples, sur le même mur, vous avez 2000 ans d'histoire, quoi. Vous voyez, je veux dire, Francesco Rosi, il fait main basse sur la ville à Naples, mais en même temps, on est dans le lieu de l'Énéide, quoi.
Donc le mur d'Ernest Pignon-Hertin, c'est un mur de Naples, un mur napolitain.
Sûrement, oui.
À suivre. Merci beaucoup à vous. Je rappelle donc le titre de cette exposition qui commencera à la fin du mois à Avignon, Ecce Homo, intervention 1966 jusqu'à aujourd'hui. Et le titre de cette monographie qui met à contribution tous vos amis, Face au mur, Ernest Pignon-Hertin, paru aux éditions Delpire. Merci beaucoup.